Mémoire d'un continent.
Elikem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Le golfe du Bénin, quelle histoire pour cette région. Le golfe du Bénin, c'est cette partie du continent africain, partie très long, très large, mais intégrée dans quelque chose d'autre, le golfe de Guinée, avec ceci que le golfe du Bénin présente, on pourrait dire, une personnalité, un profil, des identités tellement entremêlées qu'on pense qu'il faut faire une autre histoire de cette région que les histoires habituelles que nous avons sur le continent africain. Les histoires de groupes ethniques, les histoires d'états localisés, les histoires des colonisations simplement. Il faut trouver à la fois des durées qui soient significatives pour l'ensemble de la région et puis des portes d'entrée qui permettent justement de pénétrer vraiment jusqu'au cœur des particularités de cette région qui reste quand même une région africaine. Donc avec nous pour aborder ces grandes difficultés et ces enjeux, le professeur Michel Goé Akwe, qui est professeur à l'université de Lomé, qui dirige aussi la chaire UNESCO pour le rayonnement de la pensée africaine et la préservation du patrimoine, activité qui est évidemment liée à son métier d'historien et qui est donc une personnalité très importante dans la connaissance et la production de cette histoire. Michel Goé Akwe, donc nous avons dans une précédente émission présenté la complexité et l'unité de cette région. Alors maintenant, la question qui est la nôtre, c'est que les historiens sont souvent amenés dans leurs travaux à se spécialiser dans des questions, dans des régions, sous des aspects qui au fond perdent parfois de vue l'unité large de cette région. Vous vous êtes engagé dans une réflexion d'historiographie, hein, comme on dit, comment écrire l'histoire, une réflexion de méthode ouverte aussi sur ce qui se fait ailleurs, notamment le fait qu'on ne découpe plus le temps de la même manière qu'auparavant, on parle beaucoup plus des longues durées dans lesquelles les espaces se construisent, les identités se forment. Vous qui êtes sensible à ces approches, vous qui envisagez aussi de faire ce travail qui manque jusqu'aujourd'hui, par où vous pensez qu'on entrerait? D'abord, est-ce qu'on a des sources pour faire cette histoire-là?
Faire l'histoire nécessite donc des sources. Et les histoires traditionnelles pensent d'abord aux sources écrites. Évidemment, est-ce qu'il y a des sources ou des archives pour écrire cette histoire? Oui, mais qu'est-ce que nous avons comme archives pour écrire l'histoire du golfe de Guinée, des communautés? Traditionnellement, nous avons des témoignages des explorateurs, des voyageurs qui ont sillonné la côte. Et nous avons également des histoires liées aux traditions orales de chaque communauté. Mais il n'y a pas d'archives spécifiques qui expliquent bien ce brassage des communautés, cette culture nouvelle née donc de la circulation des personnes et des biens dans cette région. Mais il est possible de faire cette histoire. Et nous pensons que il faut effectivement chercher d'autres sources. Et ces sources sont des sources certes archivistiques, mais il y a également une méthodologie qu'il faut inventer. Et je crois que la méthodologie anthropologique est une méthodologie importante. Et cette histoire peut se faire à partir de l'histoire des familles. Nous avons parlé donc la dernière fois du brassage des familles où vous avez dans la même famille différentes origines matrimoniales où des gens donc de tel pays venus s'installer ici donc se sont mélangés. On a des familles musulmanes qui ont intégré des familles qui ont la religion africaine comme base. Nous avons ceux qui sont christianisés, etc. Donc il y a tout un mélange. Donc aujourd'hui, il est possible de faire cette histoire, de mieux cerner la vie des communautés, la diversité, mais également l'unité à travers de nouvelles sources.
Alors, par exemple, sur les familles, on est frappé par le fait que la connaissance de leur lignée remonte très très loin, dans le passé.
Oui, évidemment.
Avec les origines, d'ailleurs, on n'a pas honte de dire que nos ancêtres sont venus de tel endroit, sans que ça pose beaucoup de problèmes.
Et que d'ailleurs, là-dedans, il y en a qui ont été esclaves, qui sont venus de très loin, qui sont intégrés dans les familles, et qui aujourd'hui... C'est vrai que sur la côte, on ne parle pas beaucoup de l'esclavage, mais c'est une réalité qui s'est intégrée intégrée, où on a une grand-mère ou un ancêtre esclave qui est intégré à la famille et qui serait venu des zones sahéliennes ou ailleurs. Et au Togo, par exemple, quand on parle donc de la diversité ethnique, Silvanus Olympio,
le premier président.
Donc, sa mère serait venue du pays lointain, peut-être Goronsi, ou donc, et c'est comme ça, esclave intégré aux familles. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les gens du Nord sont séparés des gens du Sud, etc. Le mélange est fait depuis donc des siècles. Nous avons également les Yoruba, les Igbo qui se sont mélangés ici et là, les Évés qui sont partis vers la Côte d'Ivoire ou d'autres pays qui se sont mélangés. Donc, on peut, à travers cette histoire de famille, cette histoire donc d'acteurs, remonter très loin. Des exemples ont été déjà faits. Si nous prenons par exemple les Lawson du Togo, où il y a un document exceptionnel, un document donc des archives de famille, où les courriers qui ont été faits échanger avec les différents Européens qui sont sur la côte ont été rassemblés par un de nos collègues, Adam Jones, et ça va de 1840 jusqu'à pratiquement 1920, où ça a donné lieu à un livre sur les archives de famille. Il y a par exemple les De Souza. Et De Souza, donc, dont l'ancêtre Félicio De Souza était arrivé au Dahomey à Ouida, mais qui se sont répandus sur toute la région, hein, et en faisant l'histoire de cette famille, on retrouve toute la vie sociale, la vie communautaire qui est menée là-bas. Mais la méthode que je préconise, c'est surtout la méthode d'anthropologie économique et sociale. Alors, cette anthropologie sociale peut partir donc des pratiques alimentaires, peut partir des pratiques culturelles et remonter pour voir comment donc ces pratiques ont été construites, comment ces pratiques ont été mises en œuvre, et c'est important de savoir que les perles, je parlais donc la dernière fois des perles, les perles, on peut les distinguer, il y a des perles liées à différentes activités, et pratiquement dans toute la zone, c'est les mêmes activités. Donc, selon la spécificité de la perle, on peut la porter au moment donc des funérailles, on peut la porter comme ornement pour des grandes occasions. Donc, aujourd'hui, on peut reconstruire cette histoire sociale à travers cette méthode anthropologique où, à partir de ce qui existe aujourd'hui, on essaie de voir quelle est l'origine et on peut tout à fait reconstruire une histoire nouvelle, avoir une meilleure connaissance des communautés. Parce que souvent, qu'en faisant l'histoire nationale, il est difficile de rester dans un couloir parce que nos pays sont finalement des couloirs. Il est difficile parce que sur les frontières, évidemment, il y a une connaissance large où les populations sont de part et d'autres et ne reconnaissent pas forcément la frontière imposée par la colonisation qui, elle, ne remonte qu'au 19e, dans les derniers cas du 19e siècle, dans les meilleurs des cas, mais les rapports sociaux, culturels vont plus loin et on pourrait, à travers l'étude donc de ces rapports, revoir l'histoire, comprendre l'histoire. J'ai parlé la dernière fois donc du nom. Mais il y a également les noms patronymiques, mais il y a également les pratiques sociales que nous avons, les modes d'enterrement, les modes d'intronisation des chefs et rois qui sont les mêmes en parlant des chefs dans toute la région. Il n'y a pas de chef qui soit intronisé sans cette période de réclusion qui permettait d'initier le chef à travailler pour sa communauté. On le revoit chez les Ashanti au Ghana, on le revoit chez les Évés, on le revoit donc au Bénin, on le revoit au Nigeria et tous ont ces pratiques. Et quand on remonte même plus loin à travers l'histoire, les vieilles villes donc de ces zones qui ont été soit clôturées par des fossés et autres, c'est également des choses pareilles que l'on retrouve. L'architecture ancienne, que ce soit la poterie, donc il y a une ressemblance importante qui fait que on ne peut plus faire l'histoire sans s'associer les techniques anthropologiques, sans s'associer l'archéologie qui laisse des artefacts qu'on peut analyser. D'ailleurs, en parlant de la poterie, il y a toute l'ancienneté donc des figurines qui remontent jusqu'à la préhistoire, notamment à la civilisation de Nok, qui s'est étendue dans toute la région. Et les traditions orales qu'on évoque ici et là, tout se parle donc de ce point est. Et ce point est, certains disent, c'est Ile Ife, donc un pays Yoruba. et d'autres parlent de Ketou ou de Tado quand on parle des éveils, mais tous, en fait, se résument à ce brassage important qui fait que les cultures se ressemblent ici et là, malgré les diversités qu'on peut
voir. Oui, il y a ce brassage, notamment avec les apports venus de loin et d'extérieur, mais on est frappé quand même par le fait que l'africanité, si on peut utiliser ce mot, reste le fil conducteur et le ciment de tout ça. On est dans des cultures africaines, on peut même pas parler de tradition, ce sont les usages du présent qui sont des usages africains. Donc c'est vraiment l'Afrique vivante, une Afrique ouverte, mais qui est en quelque sorte le contrôle de son destin et de sa trajectoire.
Oui, disons que cette Afrique, cette approche de l'histoire permet de voir justement quelle est cette identité de l'Afrique et comment il y a les résiliences de l'histoire, les résiliences des activités par rapport à la colonisation qui est venue. Certes, la colonisation est arrivée avec ses impositions, le travail forcé et autres, mais elle n'a pas su gommer tout ce que nous rejetons dans l'informel qui constitue des pratiques anciennes et des pratiques liées aux circulations des populations. Donc il est clair que la colonisation n'est qu'une parenthèse qui n'a pas changé vraiment les donnes. Elle est là, elle a imposé des frontières, elle a imposé une langue étrangère, mais les langues africaines restent dans ce golfe du Bénin vivantes avec des emprunts à la fois de proverbes de telle culture ou de telle autre qui s'entremêlent, qu'on retrouve un peu dans toute cette diversité-là.
Du coup, la traite négrière, certains proposent qu'on parle aujourd'hui de déportation, qui a été une chose importante dans cette région. Et on a l'impression que ce phénomène-là, ces peuples l'ont également surmonté. C'est quand même très très curieux, d'abord parce que les cultures d'ici ont plus que survécu au Brésil, où elles forment aujourd'hui une grosse partie de l'identité brésilienne. Oui, c'est vrai. Mais on retrouve la même chose à Cuba et ailleurs. Hein. Mais en même temps, on a l'impression que, bon, ça a été une catastrophe, bien sûr, mais qui a été digérée, et voilà, l'histoire continue. Alors que dans d'autres parties du continent, le choc de la traite reste très très lourd et très présent jusqu'à aujourd'hui.
C'est vrai que en étudiant l'histoire de l'Afrique, à un moment donné, ce n'est pas pour dédouaner la traite négrière, on a toujours pensé que la traite était catastrophique, ça a cassé tout, mais on ne prend pas toujours en compte la dynamique interne que cela a causé, l'intégration des esclaves dans les communautés, le travail mis en place par l'usage. On peut parler aujourd'hui également dans nos systèmes africains d'un système de production esclavagiste, puisque les esclaves ne sont pas tous partis, et c'est un système qui a préexisté avant donc la traite négrière et qui s'est poursuivi. Donc la traite négrière, oui, était un fléau, mais néanmoins, il y a une organisation sociale qui s'est poursuivie. Certes, on dit, bon, l'instabilité a fait déplacer les populations, mais là aussi, il y a des formes de résilience qui demeurent malgré le fléau que la traite a constitué. Donc, nous disons que nous sommes dans un espace où des acteurs ont existé, ont travaillé, même ceux qui ont été donc des trafiquants de traite locaux ont également des stratégies qu'ils ont mises en œuvre. Quand nous voyons, par exemple, cette famille de Souza, comment elle s'est organisée, quand la traite devenait difficile à Ouida, comment il est venu à Nero pour s'installer, comment il s'intègre dans les intrigues des familles, etc. Et on voit bien, quand je prends le cas de Lawson, il s'étendait sur la côte jusqu'en Sierra Leone. Et de Sierra Leone, il y a d'autres qui sont à Lagos, dont vous voyez la distance. Donc ça veut dire que la traite est là, mais cela n'a pas empêché les gens de faire affaire, de vivre en communauté, d'avoir des liens sociaux, des liens culturels de part et d'autre. Donc il est clair que l'Afrique n'est pas morte à cause des fléaux extérieurs, mais elle a su avoir des capacités de résistance. Et ces capacités de résistance expliquent encore aujourd'hui la possibilité donc de se relever. Je crois qu'on ne peut pas parler de la renaissance de l'Afrique sans prendre en compte toutes ces capacités, ces potentialités qui, à un moment donné, ont été plus ou moins noyées par la colonisation ou la traite négrière, mais qui ont su évoluer. Donc l'Afrique n'est pas un continent perdu, Mais je voudrais dire, moi, pas à travers donc cette histoire, que l'Afrique a des capacités, l'Afrique a des potentialités, et ces potentialités n'attendent que d'être mieux connues et d'être diffusées pour permettre à nos communautés africaines de renaître vis-à-vis de toute cette histoire de pauvreté, de misérabilisme que l'on met en avant dans les systèmes donc d'information.
Professeur Michel Goakwe, nous avons beaucoup parlé de la mer, puisque c'est un golfe. Mais vers le nord, qu'est-ce qui se passe au-delà de cette région? Il y a des relations, évidemment, parce que le nord, c'est un espace économique, politique, religieux, lourd et important.
Tout à fait. Je crois que... On a souvent mis une coupure entre le sud et le nord, mais je crois que ce n'est pas le cas, puisque tout à l'heure, en parlant de traite négrière, des esclaves du nord sont venus s'intégrer, mais il y a également là-bas un circuit intérieur de commerce, en évoquant tout à l'heure la route du commerce entre la savane et la forêt. Donc, il y a la cola qui était un produit important, qui quittait donc les zones de la côte. Et la Salaga était un marché intermédiaire. De l'autre côté, Bondoukou, un marché intermédiaire. Et ces produits allaient vers la zone forestière, suivaient des routes où on va jusqu'à Kano. Et sur cette voie également, les migrations se sont faites. C'est pourquoi on a, par exemple, des Ouattara, des Fofana, aussi bien au nord de la Côte d'Ivoire qu'au nord du Togo ou du Ghana. Et on les retrouve également dans les villes de la côte. Donc, ce brassage, c'est ce qui explique, par exemple, le faux problème de l'ivoirité a posé à un moment donné. Mmh. Parce qu'il est difficile dans nos pays de parler de togolité ou de... Non, je crois qu'il est clair que... Le brassage était un élément important qui caractérise l'économie et la société africaine. Donc les routes n'étaient pas bitumées comme aujourd'hui, mais il y a des pistes où on circule donc à pied ou en caravane et qui mettaient en relation le nord et le nord, mais le nord et le sud. Donc autrement dit, deux zones géographiques qui se complètent, la savane et la zone forestière.
Oui, il y a les circulations, donc cette idée que les gens s'enracinent dans un village ou dans une région de génération en génération ne correspond pas à l'histoire que nous sommes en train de découvrir là. Et on pense que mettre ça en lumière, ça encourage aussi des formes de cosmopolitisme et l'intégration du continent africain. Et nous avons des sources pour le montrer.
Oui, il y a des sources pour le montrer, notamment ces sources d'histoire de famille dont je parle, qui montrent très bien comment donc des populations de la zone des savanes se sont intégrées. Et aujourd'hui, ça se poursuit quand on voit tout le phénomène des migrations des années 70, des populations des zones sahéliennes vers les côtes. Et on voit très bien que ce n'est pas du nouveau, c'est des mouvements anciens qui se poursuivent. Évidemment, quand... Dans nos traditions, les migrations sont liées au fait que une zone n'est plus accueillante et on va dans une autre zone. Donc l'étude des migrations, des populations également, est un élément important pour comprendre que... D'ailleurs, je parlais par exemple des gants. Il y a une tradition qui dit que les gants ne boivent pas de l'eau qui tombe d'un toit fait de paille.
Oui.
Or, on les retrouve dans la zone forestière. L'explication que j'ai pu avoir à travers les traditions, c'est que leur ancienne... L'espace, ils construisaient plutôt en faisant des dalles en argile avec d'autres bois et autres qu'ils utilisent, mais qui est propre aux zones de savane. Donc, ce qui explique bien que les techniques de construction ont certes évolué d'un espace à l'autre. Ça explique également que les traditions des anciens lieux donc d'occupation donc reviennent également dans d'autres, et ce qui fait l'osmose culturelle que l'on retrouve dans ce golfe, à la fois entre les populations côtières et les populations des forêts et de la savane.
Merci beaucoup, professeur Michel Goakwe. On voit que quand on parle de nouvelle histoire, new history, nova storia, on pense que c'est en Europe que ça se fait, en Amérique du Nord. Mais nous sommes en train là de discuter de ce qu'on peut appeler une nouvelle histoire, qui bien sûr ne rejette pas dans l'oubli les travaux anciens, qui s'appuient dessus, mais qui montre que il y a des sources qu'on n'a pas suffisamment mises en valeur. Il y a des connexion qu'il faut également établir entre différents niveaux de la réalité, et que cette Afrique que nous sommes en train de découvrir, ça n'est pas seulement l'Afrique d'hier. Ces brassages, ces circulations, ces inventions montrent aussi ce que peut être l'Afrique de demain. Merci à vous pour être venu à notre émission Mémoire d'un continent. Réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat